Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui s'attache à la vie des Européens et à ce qu'ils mangent également, car nous allons parler d'une petite graine très à la mode. Et ce n'est pas vraiment un hasard si l'ONU a donc désigné le quinoa, aliment de l'année 2013. Cultivé en Bolivie et au Pérou, le quinoa séduit de plus en plus de consommateurs et pourrait bien contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'Europe s'intéresse de près à cette pseudo-céréale. Aux Pays-Bas, l'université de Wageningen vient d'obtenir un prix pour ses recherches sur des nouvelles variétés de quinoa qui non seulement peuvent pousser en Europe, mais aussi sur des sols salins, jusqu'alors impropres à l'agriculture. Et c'est le reportage de Frédéric Lebel.
I'm Robert Fenlow.
Moi, je suis Manuel Pinto. Je viens de Chili.
My name is Vincent Chi, and I'm from China.
Je m'appelle Jason Abbott, je suis d'origine États-Unis, du Tennessee, mais aujourd'hui je suis français.
I'm Nguyen Ve Long, I'm from Hanoi, Vietnam.
So welcome everybody for the second day.
La moitié de la planète s'est donné rendez-vous en ce début décembre autour du scientifique Robert Van Loo. De l'Europe à la Chine, en passant par le Chili, tous n'ont qu'un objectif, développer de nouvelles variétés de quinoa sur toutes les latitudes et tous les climats. La super graine pousse presque miraculeusement depuis 5000 ans sur les hauts plateaux arides et froids du Pérou et de la Bolivie. Mais ailleurs, et notamment en Europe, c'est une autre histoire. Jason Abbott a fondé Abbott Agra, c'est lui qui a la licence commerciale des nouvelles semences développées par l'université néerlandaise. Mais avant de développer, il faut expérimenter.
Ce n'est pas aussi facile que ça pourrait sembler au départ. On a découvert que c'est une culture qui est très technique, finalement, en Europe. Pour vous donner une image à quel point c'est risqué, les pertes peuvent être très importantes. Le rendement, il peut aller de 400 kg à l'hectare à 4000 kg à l'hectare. Il y a encore beaucoup de points à maîtriser. Une des problèmes principaux, c'est qu'il n'y a aucune solution efficace aujourd'hui pour contrôler les mauvaises herbes. Voilà, donc si les conditions sont bien pour faire pousser les mauvaises herbes, au contrario à beaucoup de cultures qui sont aujourd'hui produites sur une grande surface, il y a des herbicides, n'est-ce pas? Donc c'est relativement facile à protéger une culture d'une concurrence par les adventices. En quinoa, on n'a pas cette option. Notre seule protection contre les mauvaises herbes, c'est la prière. Donc ça peut faire en sorte qu'on peut semer du quinoa et à la fin avoir un champ de mauvaises herbes.
Dans la graine traditionnelle, il faut retirer l'enveloppe extérieure qui est toxique. Avec une des nouvelles variétés, on peut sauter cette étape, plus besoin de laver le quinoa. Et puis, il y a aussi la question du tri de la minuscule graine pendant la récolte. Là aussi, il faut les bons tamis et les bonnes machines, car les pertes peuvent atteindre un quart de la récolte. On pourrait discuter pendant des heures pour savoir si le quinoa est une céréale. Pour faire simple, on dira que c'est une pseudo-céréale et donc considérée comme telle par l'Europe qui subventionne sa production. En Anjou, en France, 1200 hectares ont été plantés. Une goutte d'eau quand on sait que 92% de la production mondiale est produite dans les Andes. 5000 tonnes par an sont importées sur le continent. Il y a donc un potentiel certain.
Dans notre famille, on mange beaucoup de quinoa. Et on imagine qu'on est une famille à peu près normale et qu'il y aura d'autres qui vont découvrir le quinoa et qui vont se mettre à manger régulièrement. C'est nutritif et ça passe un peu partout. Le goût n'est pas trop fort. Il y a un goût agréable, mais il n'est pas dominant. Il passe avec tous les plats. Donc, il est facile à incorporer dans notre cuisine habituelle. Et c'est très facile à cuisiner. Donc, tout ça ensemble, ça fait que il peut être adopté par les gens normaux, pas uniquement les bio. Il va être un jour mangé par tout le monde.
Mais le quinoa n'est pas seulement appelé à un bel avenir dans les assiettes bio des Européens. Dans la serre expérimentale de l'université, Robert Van Loo nous montre tous les plants, tous les croisements de quinoa qu'il expérimente. Ces nouvelles variétés ont des qualités qui suscitent des espoirs au niveau mondial. Elles poussent sur des terres salines, jusqu'alors jugées stériles. En Chine, au Vietnam, au Chili et ailleurs sur la planète, on se frotte les mains. Robert Van Loo.
En tout, on trouve dans le monde 1 million d'hectares de sol salin.
Ce sont des territoires côtiers qui ont été inondés par la mer ou des terres qui ont été mal irriguées et le sel est remonté à la surface. Et puis, il y a des sols qui sont naturellement salins, comme dans les montagnes andines, où l'évaporation est plus importante que la pluie. Le sel provient de la roche qui se dissout. Dans ces régions, il y a des lacs salés et des plaines salées.
Bref, pour le scientifique néerlandais, une petite révolution est en marche.
Par exemple, au Vietnam, la nourriture d'une grande partie de la population repose essentiellement sur le riz. Ce sont les plus gros mangeurs de riz au monde. Ça veut donc dire que leur régime n'est pas très équilibré. Ils devraient manger plus de protéines, plus de minéraux. Et avec le quinoa, riche en fer, en calcium, en magnésium et en vitamines, et dont les protéines ont une très bonne teneur en acides aminés, on peut vraiment enrichir la composition de la nourriture au Vietnam.
Les deux ambassadeurs du quinoa en Asie, ce n'est pas un hasard, ont fait leur doctorat à l'université de Wageningen, un réseau scientifique qui peut aujourd'hui se développer en réseau commercial. Pour Wei Kongqi, qui travaille à l'Institut agronomique de la région du Yangtze, les Chinois aussi vont manger du quinoa.
You can buy quinoa in the market of China.
Vous pouvez acheter du quinoa dans les supermarchés en Chine, mais les gens n'ont pas encore pris l'habitude de le consommer. C'est un produit nouveau. On a essayé de combiner le quinoa avec du riz et c'est vraiment délicieux. J'ai goûté, ma famille a goûté, mes amis, tout le monde a aimé. Je crois franchement qu'on peut convaincre les consommateurs de manger le quinoa de cette façon.
Avec 100 000 tonnes de quinoa produites par an dans le monde, contre 100 fois plus pour le blé, la marge de progression donne le vertige. La petite graine se rêve déjà en blé du futur.
La crise de la presse est aussi sévère en Écosse qu'ailleurs en Europe, mais singularité locale, le pays vient de gagner un nouveau journal, lancé il y a 3 semaines, le National, le premier quotidien pro-indépendance écossais, cible les 1 600 000 votants, ceux qui se sont prononcés pour l'indépendance lors du référendum de septembre dernier. Avec nous pour en parler depuis Édimbourg, Olivier Hensgen. Bonjour Olivier.
Bonjour Catherine.
Alors, il y a donc un nouveau quotidien en Écosse, partisan de l'indépendance. On pourrait penser pourtant que la défaite des nationalistes au référendum a relégué au second plan le sujet en Écosse.
Oui et non Catherine. La consultation a, oui, refermé temporairement le sujet de l'indépendance au sens strict. Mais les indépendantistes du Scottish National Party, au pouvoir au Parlement d'Édimbourg, bénéficie par contre d'un niveau de soutien jamais vu. Le Scottish National Party a vu le nombre de ses membres quadrupler depuis le référendum et c'est désormais le troisième parti britannique en nombre d'adhérents. Et il vole vers les prochaines élections parlementaires britanniques de mai 2015 avec des sondages jamais vus.
Est-ce qu'on peut dire, Olivier, que l'Écosse a été transformée par ce référendum ?
Absolument. Les électeurs, qui étaient franchement assez apathiques il y a encore 2 ans, sont devenus accros à la politique. C'est cette nouvelle réalité qui a amené à la création du National, comme nous l'explique son rédacteur en chef, Richard Walker.
Je définirais le National comme un journal qui reflète et promeut la Nouvelle-Écosse. L'Écosse qui a été transformée par l'expérience du référendum. Les gens ont été changés, galvanisés par le débat. Ils ne voulaient pas revenir au point initial et dire « Ok, c'est fini ». Il y a toujours un énorme débat pour essayer de faire ce que nous pouvons avec ces nouveaux pouvoirs pour changer le pays.
On vient donc d'entendre le rédacteur en chef Richard Walker, mais n'y avait-il pas déjà un journal pro-indépendance en Écosse ?
Il y avait juste un hebdomadaire basé à Glasgow qui paraît le dimanche, le Sunday Herald. Pendant la campagne, il a été le seul journal à se déclarer en faveur de l'indépendance, et bien lui en a pris, parce que ses ventes ont progressé en moyenne de 30 à 40%. Il y avait donc un créneau à prendre et c'est l'objectif du National qui est publié par la même entreprise de presse que le Sunday Herald.
Mais Olivier, The National ne risque-t-il pas d'être perçu finalement comme un porte-parole du Scottish National Party ?
Oui, on a bien sûr entendu ceux qui dénonçaient le journal comme une sorte de, je cite, « Mac Pravda ». Mais il faut se rappeler tout d'abord que la campagne du « Oui à l'indépendance » avait mobilisé bien au-delà du SNP. Richard Walker, toujours lui, plaide en outre pour une distance critique par rapport au parti.
Le journal est absolument indépendant du SNP, bien que nous partagions le même but. À cet égard, on peut dire qu'on est dans le même bateau, mais il y a beaucoup de choses que le SNP fera et avec lesquelles nous sommes en désaccord. Je trouve bizarre que nous ayons à nous défendre parce que nous prenons position, alors que d'autres le font aussi, mais contre l'indépendance, et on ne leur demande jamais de se justifier. Les journaux sont autorisés à avoir des opinions. On va regarder les histoires sous un prisme différent, mais on essaiera toujours d'être au plus près de la vérité.
Alors Olivier, que peut-on trouver de plus dans ce journal ?
Écoutez, c'est un tabloïd, mais sans la mise en scène trash et où les infos people la rallongent. Il compte 32 pages, il est vendu 50 pence, soit à peu près 60 centimes d'euros. C'est un journal d'information classique, et le plus, c'est une position indépendantiste affirmée. Par exemple, lorsque, comme promis pendant la campagne, la commission chargée à Londres de réfléchir à l'octroi de pouvoirs supplémentaires en Écosse publie ses propositions, le journal titre en une « Ce n'est pas assez ». Mais lorsqu'Alex Salmond, le héros du nationalisme écossais qui a démissionné de son poste de Premier ministre après le référendum, annonce son intention de briguer un siège de député au Parlement de Londres aux prochaines élections, l'information est bien sûr en une, mais équilibrée avec des témoignages critiques du personnage.
Au final, Olivier, est-ce qu'on peut parler de succès pour ce nouveau journal ?
On peut, oui. Le journal a démarré en fanfare. Le premier jour, ce sont 60 000 exemplaires qui ont été vendus, bien au-delà des espérances des éditeurs. Pour ses lecteurs, le National remplit une fonction importante, comme l'explique Neil Somerville.
Le problème avant le vote, c'est qu'il n'y avait pas de quotidien pro-indépendantiste. Il devait y avoir 46 quotidiens anti et un journal du dimanche qui, lui, était favorable. Il y avait donc un déséquilibre énorme au sein des médias et ce n'est pas sain pour une démocratie. C'est bien d'avoir quelque chose de nouveau sur le marché, même si le vote est derrière nous, le sujet est toujours dans l'air. Il y a quand même 45% des gens qui ont voté pour l'indépendance, et ça, ça ne va pas disparaître, heureusement.
Voilà donc le sentiment d'un des lecteurs à Glasgow, Olivier. Merci Olivier Nsgen, et à bientôt dans Accent. Allez, une deuxième partie d'Accent un peu plus festive, puisque nous entrons dans cette période de fête. Noël a d'ailleurs été devancé de quelques jours par la Saint-Nicolas, célébrée aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et dans l'Est de la France notamment. Mais savez-vous que Saint-Nicolas est en fait originaire de Turquie ? D'ailleurs, l'église Saint-Nicolas de Demre, dont on entend les chants en ce moment, non loin d'Antalya, dans le sud du pays, compte parmi les plus célèbres lieux de pèlerinage. C'est en effet dans cette région qu'est né celui dont la vie donnera naissance à la légende du Père Noël. Et oui, Anne Andlauer.
Le ministère turc de la Culture, qui visiblement ne craint pas les raccourcis historiques, désigne officiellement le site comme l'église du Père Noël. En réalité, c'est bien de Nicolas de Myre, devenu évêque de cette ville autour de l'an 300, puis le célèbre Saint-Nicolas, qu'il est question ici. Myre, ou Myra, Demre de son nom turc actuel, était à l'époque de Saint-Nicolas une grande ville romaine prospère, dans cette région d'Asie mineure qu'on appelait alors la Lycie. Le fameux Père Noël, version profane du Saint-Évêque et de sa générosité légendaire, n'apparaîtra que bien plus tard. Qu'à cela ne tienne, les Turcs affirment régulièrement que l'homme au bonnet rouge est né dans leur pays. Cette église du Père Noël, ou plutôt de Saint-Nicolas donc, vraisemblablement construite à la mort de l'évêque, est aujourd'hui un édifice byzantin orné de fresques et de mosaïques, restauré d'innombrables fois. Elle reçoit la visite de très nombreux touristes et pèlerins, russes orthodoxes en particulier. Ils viennent se recueillir au tombeau de Saint-Nicolas, saint patron de la Russie, tombeau où ses reliques ne se trouvent plus depuis longtemps. Qu'à cela ne tienne, là encore, les tours opérateurs ont flairé le bon filon, de même que les commerçants et les restaurateurs du coin qui proposent leur menu en caractère cyrillique. L'été, une foule impressionnante se presse souvent à l'entrée. On ne s'étonnera donc pas du fait que l'église Saint-Nicolas, ou du Père Noël, c'est selon, a accueilli en 2013 plus de 530 000 visiteurs, ce qui fait d'elle le cinquième musée le plus visité de Turquie.
Là, les bébés pleurent, mais on peut dire heureux comme un bébé au Danemark. Et oui, le pays est sans doute l'un des pays européens où il fait bon vivre quand on est de jeunes parents. Séances de ciné réservées aux mamans, restaurants aménagés en salle de jeu ou encore espaces d'allaitement dans les centres commerciaux. Le Danemark, paradis des tout-petits, c'est le reportage de Sungshim Courrier à Copenhague.
Ce matin, on assiste à un embouteillage de poussettes devant ce cinéma de la capitale danoise. Et pour cause,
Aujourd'hui, comme chaque jeudi, c'est le Baby Bio, une séance réservée aux parents et à leurs nouveau-nés. Mélieu et son jeune fils Vigo sont des habitués de ce cinéma.
C'est une séance de cinéma pour les bébés et les parents. Le prix de la séance est le même que pour une séance normale, mais la différence, c'est qu'il y a une équipe qui surveille les bébés s'ils dorment dans leur poussette. Vous leur laissez votre numéro de siège, comme ça, si votre bébé se réveille et se met à pleurer, l'un des employés vient vous prévenir. Vous pouvez alors ramener votre enfant dans la salle et regarder tranquillement la fin du film. S'il pleure trop, vous pouvez toujours sortir et le cajoler un peu, puis revenir vous asseoir quand il s'est calmé. Moi, je viens ici une fois par semaine, j'habite dans le quartier.
I live in the neighborhood.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sélection des films n'est pas faite pour les enfants.
The Riot Club.
Aujourd'hui, je vais voir The Riot Club. C'est un film violent avec plein de beaux mecs sexy.
Cette semaine, ce cinéma propose 6 films en formule Baby Bio, un véritable succès, comme le confirme Ida, employée au cinéma Falconer.
Oui, le Baby Bio remporte un grand succès. Comme vous pouvez voir, le hall d'entrée est presque plein. Il n'y a quasiment pas de place pour circuler. C'est vraiment une formule qui plaît.
Et derrière la porte de cette salle de cinéma, la scène est assez surprenante. Alors que le film est projeté sur l'écran, une vingtaine de mamans se sont appropriées tout l'espace. On en voit assises sur les marches et qui jouent avec leur bébé, pendant que d'autres donnent le sein. Certaines aussi regardent le film tranquillement, tout en berçant leur enfant dans les bras.
Les lumières de la salle sont allumées mais tamisées. Le son est moins fort que d'habitude. Comme ça, il n'y a aucun risque d'abîmer l'ouïe des nouveau-nés. Et c'est important de laisser la lumière parce que ça permet à l'enfant de garder un contact visuel avec sa mère.
Mais au Danemark, il n'y a pas que les cinémas qui s'adaptent aux enfants. Depuis environ 5 ans, de plus en plus de cafés et de restaurants permettent aux jeunes parents de fréquenter leurs établissements. C'est le cas de Sweet Surrender, un petit restaurant créé tout spécialement à l'attention des parents. Cathy Fitch nous fait un petit tour du propriétaire.
On fait justement des travaux dans les toilettes pour installer une table allongée, ici, mais aussi des marchepieds. Oups, attention au petit garçon. Donc je disais que nous avions acheté une table allongée et aussi une poubelle spéciale pour les couches. Et nous avons fait en sorte que tous les produits, comme le savon, qui contiennent des produits chimiques, soient hors de portée des enfants. Nous avons aussi un grand espace de jeux pour tous les âges. Même Lego nous a donné des boîtes de jeux. Et puis les menus sont pensés spécialement pour les enfants. Tous les matins, quand on réfléchit au plat du jour, nous accordons une attention toute particulière à la carte spéciale petit. On collabore aussi avec le site internet Les Enfants en Ville. C'est un site qui regroupe toutes les activités adaptées aux enfants. Et le samedi, dans ce cadre, nous organisons une journée de bricolage pour les parents avec leurs enfants.
Et parmi les nombreuses infos du site Bernie Bune, on peut trouver les lieux faciles d'accès pour les parents qui circulent avec une poussette normale, voire avec une poussette de jumeaux. Amel et Jennifer sont allemandes. Ces deux jeunes mères se sont installées récemment à Copenhague et en sont ravies.
They are just here, playing at the table and it's wonderful.
Nos enfants sont juste là en train de jouer près de la table basse et c'est super. Le Danemark est beaucoup plus ouvert aux enfants et aux bébés que chez nous. Il y a plein de cafés et de restaurants qui ont aménagé des petits espaces de jeu et tout le monde est très attentif et gentil avec les enfants. Il y a aussi des tables allongées partout. C'est très facile de mener sa vie de parent ici.
Il y a même dans les centres commerciaux des endroits où on peut donner le sein et changer son bébé. Je ne connaissais pas ça avant. C'est peut-être unique en Europe.
En effet, à chaque étage des grands centres commerciaux de la capitale, les jeunes mamans peuvent s'installer dans un petit salon d'allaitement aménagé spécialement pour elles. Un service qui existe depuis plus de 10 ans au Danemark, mais qui est devenu normal pour éviter que les jeunes mamans fassent leurs courses chez la concurrence, plus facile d'accès. Et comme Amel et Jennifer, la plupart des parents danois se déplacent principalement avec leurs enfants à bord d'un vélo Christiania, une espèce de triporteur avec une grande caisse devant où s'installent les enfants.
Et Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le site RFI.fr, sur votre mobile ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute sur RFI évidemment, dans un instant les infos.